Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
C'est un débat sensible, fort, grave, important. Je pense qu'il doit être tranché par les Français. Je poserai donc par référendum cette question.
Deux référendums promis par Nicolas Sarkozy il y a quelques jours s'il retourne à l'Élysée. L'un sur la systématicité du regroupement familial, l'autre sur l'internement des fichiers S les plus dangereux. Et le référendum à la côte. La côte, bien au-delà des frontières françaises, en quelques mois, plusieurs ont été convoqués un peu partout dans le monde, pour ou contre le Brexit au Royaume-Uni, pour ou contre l'accord de paix avec les FARC en Colombie, pour ou contre l'accueil des migrants en Hongrie. Des scrutins dont le résultat a parfois créé la surprise et dont les campagnes ont souvent été marquées par des accents populistes. Alors, référendum, outil démocratique, outil démagogique, c'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, deux invités. Anne Massé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale du think tank européen Confrontation Europe. Gilles Delannoy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, professeur de théorie politique à Sciences Po. Alors, oui au Brexit, je l'ai dit tout à l'heure, non à l'accord de paix avec les FARC en Colombie, non à l'accueil des migrants en Hongrie, même si le référendum, hein, précisons-le, a été invalidé faute de participation. Les résultats de ces trois référendums ont été très commentés. Anne Massé, les résultats de ces votes, vous poussent-ils, vous ont-ils poussé à vous interroger sur la légitimité du référendum en lui-même, sur le concept même de référendum ?
Alors, le référendum est a priori une bonne nouvelle pour la démocratie, surtout dans un contexte de crise de nos démocraties nationales et européennes, principalement fondées sur l'élection, et alors que les citoyens se sentent assez peu entendus par leurs représentants. Mais il est trop souvent, et ça a été le cas dans les trois cas que vous avez mentionnés, utilisé à mauvais escient. Il est souvent dévoyé en plébiscite pour conforter la personne qui pose la question, la personne qui est au pouvoir. Il est aussi un moyen pour certains politiques de renvoyer à d'autres des décisions audacieuses qu'ils n'osent pas prendre eux-mêmes alors qu'ils devraient assumer leurs responsabilités politiques.
Et puis, vous pensez là par exemple au Brexit.
Je pense au Brexit, je pense par exemple y compris à la question hongroise finalement et ou même essentiellement au Brexit. Et dans les faits, on voit bien que les résultats sont pas toujours ceux qu'on attendait.
Donc ça veut dire quoi finalement? Comment vous vous positionnez? Parce que là vous nous dites c'est à la fois vox populi, vox dei, comme on dit, donc évidemment l'argument démocratique classique, et puis en même temps ça donne libre cours à des propos excessifs, voire populistes. Alors vous êtes pour ou vous êtes contre le référendum?
Eh bien on est contre quand la question est mal posée, c'est-à-dire quand elle est trop restrictive. Quand elle amène à répondre par oui ou par non, sans mettre finalement les citoyens en capacité de répondre à une solution ou à un débat nourri, argumenté, qui leur permette vraiment de
donc
se prendre telle ou telle option.
Donc toute question ne vaut pas référendum. Alors on va y venir évidemment. Votre opinion, Gilles Delannoy, sur ces référendums qui se sont passés, sur la notion de référendum, pour vous, c'est, je reprends l'intitulé de l'émission, un outil démocratique ou un outil démagogique ou peut-être les deux ?
C'est forcément les deux, comme toute procédure en général, pas plus pour le référendum que pour autre chose, pour le vote de représentants, pour toutes les procédures, ne peuvent être évaluées que quand on connaît leur contexte, leurs détails. L'intérêt est dans les détails. Si être pour ou contre le référendum en général, quel que soit le référendum en question,
ça me semble
une position très simpliste, mais comme sur n'importe quelle procédure. On peut critiquer les jurys populaires au tribunal. Parfois, c'est bien, parfois, c'est critiquable.
Mais alors, si cette question, elle monte quand même, c'est qu'on a la sensation, alors peut-être est-elle fausse, qu'il y a une augmentation du recours au référendum. Alors est-ce que déjà, c'est une analyse que vous partagez?
Alors, on peut se référer aux statistiques. Alors, évidemment, j'étais à un colloque récemment où quelqu'un nous a présenté les statistiques sur les référendums dans le monde entier. C'est un peu d'agréger des choses qui parfois n'ont pas grand rapport, mais il y a une montée constante du référendum. On ne sait pas encore si la décennie présente va dépasser la précédente. C'est pas absolument certain. Donc on est bien sur une phase
ascendante
de multiplication des référendums. Alors c'est compliqué parce que la Suisse prend déjà une bonne partie avec ses votations permanentes du pourcentage mondial. Mais alors, incontestablement, il y a une tentation du référendum qui elle-même provoque une assez grande montée de scepticisme contre le référendum. On est en plein débat.
Ah bah tant mieux. Et est-ce que vous faites une corrélation entre donc la montée, l'augmentation du recours au référendum et la montée des populismes qu'on voit notamment en Europe ?
On peut le faire, puisque le populisme se fonde sur l'appel direct au peuple. Cela dit, si on regarde les choses de plus près, je ne suis pas absolument certain que la responsabilité principale incombe aux partis populistes. La plupart des référendums qui sont faits, pour le meilleur et pour le pire, en étant des succès ou des échecs jusqu'à présent, n'ont pas été faits par des partis populistes, mais par des dirigeants politiques qui veulent faire un coup politique. Là aussi, il faut d'ailleurs faire une distinction. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que le référendum plébiscitaire est un dévoiement. Il a au moins une logique démocratique. Quand le référendum, les référendums du général de Gaulle, c'est le 49-3 à l'échelle de la nation. C'est si vous voulez me garder, prenez ma loi. Et quand ça ne marche pas, je m'en vais. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est pas le bon usage du référendum. On le prend pas au sérieux. Mais il a au moins cette petite légitimité démocratique.
Et puis,
fait des référendums uniquement pour diviser l'opposition, et que quel que soit le résultat, on ne démissionne pas après, je ne nommerai aucun responsable politique, là, on est vraiment dans le niveau zéro du référendum. Donc parce que ça ne sert à rien.
On sent bien votre scepticisme à l'égard d'un certain type de référendum. On va développer peut-être après ce qu'est un bon référendum. Mais Anne Massé, juste quelque chose quand même. Est-ce que finalement, s'insurger contre le référendum, c'est pas aussi plébisciter une forme de retour, alors je sais pas comment le dire, au suffrage censitaire, opposer les sachants au peuple qui saurait moins?
Oui, ça pourrait être le cas. Mais est-ce que le référendum mal utilisé est la panacée pour démocratiser davantage nos démocraties? Ce n'est pas certain. Ce qui nous manque le plus, en fait, c'est non pas d'essayer de faire appel au peuple sur des questions trop mal posées, les enfermer dans une oui-non, mais surtout d'avoir des débats de fond vraiment nourris sur de vraies options. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, du Brexit, là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie irresponsabilité d'une bonne partie de la classe politique britannique. Quasiment tous des leaders du « oui » maintien dans l'Union européenne, qui n'ont pas été suivis, mais enfin, après 50 années où on n'a pas parlé d'Europe, sauf pour l'utiliser comme bouc émissaire, c'est difficile de tout rattraper en 6 mois. Et des leaders du non qui n'assumaient pas, eux non plus, ce qu'ils avaient promis. Oui. Et donc, finalement, on se retrouve avec une question qui a été mal posée, là, juste pour illustrer ce que je disais auparavant. La question, c'est pour ou contre l'Europe, par principe. Alors que celle qu'il faudrait poser aujourd'hui, c'est quelle Europe voulons-nous? Quelle Europe réformée nous voudrions?
C'est pas une question qu'on peut poser par référendum, par définition. C'est trop complexe. Ou bien vous auriez vu un autre intitulé intéressant pour la question du Brexit?
En fait, il aurait fallu tout un travail préliminaire sur qu'acceptons-nous de partager au niveau européen. Et que ça se passe pas qu'à l'échelle d'un seul pays, mais aussi au niveau pan-européen. Puisque s'il s'agit de construire quelque chose entre Européens, eh bien, il faut bien qu'il y ait des débats entre peuples européens. Or, pour le moment, on est confronté à une défiance entre peuples européens.
Gilles Delanoë, je voyais faire oui de la tête.
Moi, je ne partirais pas du bon sens, de cette idée, du postulat que la vérité est forcément dans l'élite ou dans le peuple. Évidemment que ça dépend des cas. Hein. On peut demander aux populations européennes si elles veulent une harmonisation fiscale dans l'Union européenne. Rien ne nous prouve qu'elles vont dire non. Hein. Peut-être, mais tout dépendra de la façon dont le débat sera organisé. Donc ça va beaucoup dépendre des cas. Ce que je voudrais dire aux dirigeants politiques, je leur dis depuis longtemps, c'est les procédures politiques, on s'en sert mieux si on les aime. Voyez, les aimer, ça signifie les respecter, comme un jardinier aime ses roses et ses tulipes. Donc prenez-les au sérieux. Quand vous posez une question par référendum, dites que vous appliquerez la réponse et que la question est sérieuse. Je pourrais prendre un petit exemple.
Allez-y.
En comparant deux référendums, je compare la puce et l'éléphant. Mais Notre-Dame-des-Landes et le Brexit ont un point commun, c'est qu'ils sont utilisés par dirigeants qui ne savent plus comment maîtriser la solution, même pas tellement la solution au niveau politique national, dans leur propre parti. Parce que le Brexit, ça tient autant à la volonté de M. Cameron de faire le ménage dans son propre parti. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est pareil, le Parti Socialiste est divisé. Donc le référendum, il arrive là quand même comme une solution de dernier recours avec des finalités très particulières.
Et nous allons écouter tout de suite un extrait de Georges Pompidou.
Voici qu'approche l'heure de votre décision. Sur ce référendum, sur la réponse à apporter, tout vous a été dit, et dans tous les sens. Je voudrais, en quelques mots, vous ramener à l'essentiel. Faut-il nous engager hardiment dans la voie de la construction européenne? J'affirme que oui. À l'époque des superpuissances, une nation comme la France ne peut préserver sa pleine existence politique, économique, monétaire, qu'en s'unissant étroitement à ses voisins.
La cour extrait d'une allocution présidentielle du président Pompidou, c'était le 21 avril 1972, deux jours avant le vote. Un référendum sur l'élargissement de l'Europe devait entrer Grande-Bretagne, Danemark, Irlande et Norvège. Le oui l'a d'ailleurs emporté à plus de 68%. Anne Massé, est-ce que là, on était dans un bon référendum?
Disons, à partir du moment où la question et les différentes options ont été clairement posées, et que il s'agissait pas d'un plébiscite sur oui ou non, vais-je voter en faveur de la personne qui dirige, eh bien les conditions sont davantage réunies.
Mais alors c'est d'ailleurs ce que dit le président Pompidou, qui dit vous avez tous les éléments, tout vous a été dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était mieux les campagnes en 72 qu'aujourd'hui sur l'Europe?
Je dirais pas que c'était mieux, mais disons, pendant très très longtemps, on a construit l'Europe par petits pas. Et les citoyens européens, aujourd'hui comme hier, veulent faire partie de l'Europe dans la grande majorité. C'est les résultats des différents sondages qu'on peut avoir. Mais de plus en plus, l'Europe a progressé et ils sentent qu'ils ne sont plus partie prenante de cette Europe. Et c'est une revendication très forte qu'ils ont auprès des élites dont nous parlions, qui n'ont pas toujours raison. Et donc, les impliquer, organiser vraiment des débats pan-européens sur quelle Europe voulons-nous, aujourd'hui, est un impératif, en amont de référendums qui valideraient différentes options.
Gilles Delannoy, je reviens sur la notion de contexte qui a été tout à l'heure évoquée. Contexte comme déterminant si un référendum est légitime ou pas légitime. Est-ce qu'à votre avis, dans ce cas-là, le contexte était le bon? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas le bon aujourd'hui pour ce type de question?
Le contexte, c'est d'une part l'état des passions ambiantes. Ça varie selon les époques. Il est certain que c'était plus facile pour le président Pompidou dans une phase qui était encore celle des Trente Glorieuses, où l'état du pays était globalement meilleur. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais le contexte, il est aussi provoqué par la façon dont on utilise le référendum. C'est ce que j'appelais la finalité. On peut utiliser le référendum de façon beaucoup plus souple que les quelques exemples que nous avons sous les yeux. On peut utiliser les référendums avant de faire des lois, pas uniquement après, pour demander quelle doit être l'orientation de la loi. Ça donne une légitimité au législateur. On peut faire des référendums où la réponse n'est pas oui, non, mais deux options différentes sur le même sujet. Donc vous voyez, sinon... Je réponds à votre question qui était la plus générale possible. Si nous réfléchissons sur le référendum, est-il légitime ou illégitime? Avant de donner notre réponse, si tant est qu'il y ait une réponse à cette question, il faut voir que le référendum, c'est beaucoup plus vaste que les quelques exemples. On a un président colombien qui se précipite pour faire un référendum dans la semaine où il a passé l'accord. Le Brexit est tout à fait particulier. Autre point de stratégie politique désastreuse, Monsieur Cameron devrait lire Machiavel plus souvent. Il devrait savoir que quand une recette politique marche une fois, elle ne marchera pas la deuxième. Donc ce qu'il a réussi en Écosse, il n'allait pas le réussir. On a dit aux Écossais... Vous voulez l'autonomie, c'est l'indépendance ou rien. Et je gagne mon référendum. De peu, d'ailleurs. De peu. Il l'a gagné de peu. Et là, il a fait un peu la même chose avec l'Union européenne.
Anne Massé, vous partagez cette analyse?
Je partage assez, en fait. Il faut à chaque fois se pencher sur des cas concrets. Si on regarde le référendum hongrois, par exemple.
C'est intéressant, parce que rentre en plus la notion de quorum. Il n'y a pas eu assez de personnes pour voter. Est-ce que ça, c'est pas aussi un gage? Est-ce qu'il faudrait pas, augmenter le quorum pour rendre certains référendums peut-être plus légitimes que d'autres?
Et vous avez raison, je pense que c'est une vraie question à se poser. Quand c'est des décisions aussi cruciales pour l'avenir de tout un pays, voire même la construction d'un processus, enfin le projet européen, juste une majorité apparaît trop faible, surtout quand on se rend compte que peu finalement votent. Mais dans ce cas, on voit bien que le gouvernement hongrois, et notamment son premier ministre, a vraiment instrumentaliser le référendum pour essayer d'affaiblir l'Union européenne en s'opposant à des quotas obligatoires, que même le président de la Commission européenne avait dit, la solidarité sur les réfugiés doit venir du cœur, donc ce sera plus obligatoire. Et finalement, c'est aussi quand même, je l'analyse de manière assez claire, mais un petit jeu de sa part pour essayer d'affaiblir des institutions européennes qui l'embêtent un petit peu quand lui-même veut affaiblir ses institutions démocratiques, qu'on pense à la justice ou aux médias.
Parce que je pense par exemple au référendum de 58 pour entériner la constitution de la 5e République, il y avait eu, je crois, au moins 80% de participation et 80% de oui. Alors là, forcément, on voit bien, aujourd'hui, elle est encore en vigueur. C'est aussi une question d'ampleur de la participation, à votre avis, Gilles Delannoy ?
Pour ma part, je préfère le quorum élevé à la majorité qualifiée. Parce que la majorité qualifiée, n'oublions pas quand même qu'elle donne un droit de veto à une minorité, ce qui aussi pose problème en démocratie. Si on dit pour quitter l'Union européenne, faut 60% de oui, faut-il 60% de oui pour y entrer dans ce cas-là? Pourquoi ça ne jouerait pas à l'entrée? Alors ça peut marcher, mais le quorum me semble en effet nécessaire, du moins pour les questions importantes. Bon, quand on a un système où il y a énormément de référendums comme en Suisse, en fait la majorité des électeurs se déplacent quand il y a un véritable enjeu, quand il y a un référendum sur la longueur des cornes de vache. Ben, après tout, seuls les gens qui sont intéressés vont décider de la longueur des cornes de vache, ça me semble pas décisif. Donc pas de vote obligatoire, mais un quorum assez élevé.
Alors, il y a aussi une des questions qui est intéressante, c'est celle des enjeux qui sont posés dans l'intitulé du référendum. Est-ce que, par exemple, poser une question sur des enjeux à long terme ne serait pas plus intéressant que des enjeux à court terme ? Je donne un exemple que j'ai inventé. Mais est-ce que demander plutôt si l'asile a sa place en France, ce serait pas plus intéressant comme référendum que de demander si on est pour ou contre l'accueil des migrants ?
Je pense que vous avez raison, et d'ailleurs ça pourrait contribuer en partie à remédier au fait que une des difficultés de la démocratie est qu'elle est fondée d'abord sur l'élection et donc sur des intérêts partisans à court terme qui s'affrontent, alors que les vrais enjeux auxquels on est confronté, c'est des choix de société.
Ça permettrait peut-être d'échapper au plébiscite, par exemple.
Je ne sais pas si ça permettrait d'y échapper, mais ça permettrait de diminuer la probabilité que ce soit utilisé comme ça.
Les questions de société sont probablement celles qui sont les plus faciles à traiter par référendum. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser toujours, mais il y a une loi sur le divorce en Italie. Il y a aussi un gros parti anti-divorce. C'est lui qui provoque le référendum en 1974 en demandant à ce qu'on abroge par le vote du peuple ce que l'Assemblée a voté, c'est-à-dire le divorce, dans un pays où le divorce était interdit. Et finalement, il y a 60% pour le maintien de la loi qui a été votée au Parlement. Bon, là, je pense que ça fait partie des cas, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet, mais on peut utiliser le référendum sans pour autant décider que tous les sujets sont susceptibles d'être soumis au référendum, par ailleurs.
Et alors, qu'est-ce que vous définiriez, il ne nous reste déjà plus beaucoup de temps, mais à votre avis, sur quel sujet faut-il convoquer ou peut-on convoquer des référendums? Et surtout, sur quel sujet ne doit-on pas le faire, à votre avis, Gilles Delannoy?
Bon, rien n'est interdit, a priori, en démocratie, mais je pense que les questions de société où chacun peut juger de ce qui va affecter directement sa vie sont... en moyenne, je dis bien en moyenne, plus légitime que pour trancher des questions de politique étrangère. Cela dit, ça peut arriver aussi que sur des questions de politique étrangère, on puisse recourir au peuple. Mais enfin, en principe, c'est beaucoup plus difficile.
Anne Massé, vous êtes d'accord sur cette différenciation entre questions sociales, questions plus politiques
ou institutionnelles?
Moi, j'inclurais un élément de temps, d'échéancier, c'est-à-dire que pour soumettre une question au référendum, il me semble qu'il faut d'abord avoir un projet et donc des options, et que ça a été débattu très très largement et de manière constructive, très largement en impliquant tout le monde et pas simplement des élites, par exemple.
Alors en plus, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est la suite donnée au référendum. On se rappelle de celui en 2005 en France qui n'a pas vraiment respecté le résultat du référendum sur l'Europe. Juste, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il faut faire un référendum sur le Frexit, donc la sortie de la France de l'euro dans la foulée, de l'Union européenne, dans la foulée du Brexit? Oui, non, Anne Massé?
Pour moi, non. Il faut faire un référendum au terme d'un processus de refondation de l'Europe avec un vrai projet.
Et vous, Gilles Delannoy, vous allez me dire non, vu ce que vous venez de m'expliquer, pas de politique étrangère?
Non, je vais répondre par une plaisanterie. Il faut d'abord faire un référendum pour savoir si on fait un référendum.
on terminera sur la plaisanterie. Merci Gilles Delannoy, merci Anne Massé, merci également à Florence Ponce et Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau débat.